Bonsoir. Allez, on cède à la tradition. Permettez-nous de vous souhaiter, chers auditeurs, tous nos vœux de bonheur en ce début d'année. Du bonheur, on vous en souhaite des tonnes et aussi plein de bonne musique et de bons concerts en 2012. Et cette nouvelle année, justement, nous avons le plaisir de la démarrer avec un invité de marque. J'ai nommé Alexandre Gosse. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Bonsoir aussi Rémi qui se joindra à moi pour cuisiner notre invité.
Bonsoir et bonne année à toi.
Merci beaucoup. Donc pianiste au sein de nombreux groupes, compositeur, arrangeur, mais aussi professeur de jazz, conservatoire de Laval. Notre homme est multitâche, multicasquette, passionné de jazz, mais aussi de musique classique, de musique du monde et de cinéma. Il travaille actuellement sur un ciné-concert dont on discutera. Entre autres choses, un ciné-concert qui d'ailleurs dont la première se déroulera demain soir, ce qui aussi a suscité notre envie de t'inviter ce soir. Donc on causera de ce ciné-concert dans cette émission qui s'annonce plutôt jazz, hein, je pense.
Et donc je le précise d'ores et déjà, demain soir à Segré.
Voilà, et puis on le redira, on donnera toutes les infos dans l'émission qui vient.
Sur Métropolis.
Mais avant de rentrer dans tous ces détails et dans cette interview avec Alexandre, je vous propose de découvrir, comme à chaque fois au début de cette émission, un jeune artiste, Black Sad. Celui qu'on a choisi de vous faire découvrir aujourd'hui est sans doute moins jazzy que notre invité d'aujourd'hui. Encore que, pas si sûr, car certes Black Sad verse plutôt dans le hip-hop, mais ses instrus concoctés par Fudge, un célèbre beatmaker du 5-3 qu'on a déjà invité à ce micro, ces instrus donc sont truffés de samples de jazz, de soul et de funk. Donc notre homme verse plutôt du côté lumineux de la force plutôt que voilà, du côté obscur. Pour ceux qui connaissent un peu le hip-hop, on est plutôt du côté d'Hocus Pocus que de Booba. Black Sad fait du rap cool comme d'autres font du jazz cool. Ce ne signifie pas que ce jeune homme n'est pas en colère, mais il préfère dire les choses calmement, à la plume plutôt qu'à la lance-roquette. Et ma foi, c'est plutôt agréable à l'oreille. C'est un ex-Lavallois, c'est pour ça qu'on en parle aussi, mais qui est installé aujourd'hui à Nantes et qui reste très connecté au 5-3 puisque voilà, il a produit ce disque avec des musiciens du cru. Donc il vient de publier ce premier disque donc, dont on va écouter un titre. C'est un maxi deux titres, deux morceaux inspirés au flow smooth et tranquille et aux rimes virtuoses, ultra travaillées, ultra riches d'allitération, de jeux de mots, de rebonds. Voilà, on sent qu'il y a eu un gros boulot sur le texte et c'est plutôt réussi. Le titre qu'on écoute tout de suite pour découvrir cet artiste, c'est un titre qui s'appelle « Les femmes du tram ». Et voilà, c'est un titre d'ailleurs qui est accompagné d'un excellent clip que je vous conseille, qui met en scène Black Sad dans le tram nantais, et voilà, qui raconte un peu tous ses délires autour des filles qui regardent passer dans le tram. Voilà, c'est à voir sur Internet absolument, et à écouter ici, maintenant.
C'est à commerce que tout commence. Bab à la tête dans le shit, proche du coma. Comme d'hab, chute nos comment. J'ai quand même vu sa jolie trogne attendre le tram. Pense à noter cette rime, je me suis dit. Elle est montée dans la rame. Être aussi jolie est un crime, je me suis dit. Si la vie était un film, à mon avis, sur la BO, il y aurait Marvin. Ambiance magique, imagine. Elle a grimpé dans la voiture, elle a fait grimper le mercure. En plein décembre, on a vu neiger descendre. Je n'ai partagé qu'un bout de ligne avec ses belles brunes longilignes. J'aurais voulu ne jamais descendre. C'est un fait, elle et sa coupe à la garçonne. Elles m'ont coupé le klaxon, m'ont coupé le sifflet. C'est fort que plus tard j'en ferai un couplet. Plein de mots tendres à l'automne, j'aimerais qu'elle puisse l'entendre. Elle n'en saura peut-être jamais rien. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite.
La vie est ainsi faite.
Ok. Les femmes du train. C'est une chanson pour les Marie, les Zézy, les Mélanie, les Manon, les Marion.
Les femmes du train.
Mélodie pour les Catherine, les Fanny, les Sophie, les Élodie. Les femmes du train.
Je les aime, je les aime, je les aime, j'en suis fan. Les femmes du train.
À Saint-Félix, j'ai vu cette femme accrochée à son phone portable, un Philips, comme à une bouée au milieu d'un océan de larmes. Spectateur du train, je mate, je vois ses yeux revolvers se mouiller, mais pas s'enrayer.
touché en plein cœur par sa tristesse. Quelle base traîtrise la mine dans tant de détresse. Toi, je ne te connais pas, mais déjà je te déteste. À l'autre bout du fil, tu dois être un imbécile pour faire pleurer une si jolie fille. T'es qu'une mule, je ne vois pas d'autre solution à part ça. S'il pleut sur toi, prends donc ce son comme par cas. Mise sur Black Sad, mise ou Bliscon, pleurer ce gars est abscon. T'emmène au bout de son nom. Il devrait tourner autour de toi. Il n'y a pas de plafond, je t'emmène au-dessus des toits. Pas de triche, chanteur venu d'Afrique, je ne joue pas de flûte, mon mic est un balafon. Je travaillais à fond à te consoler, t'es baisé comme salaire, je me vois déjà riche. Tes larmes sont belles, tes sourires doivent être solaires. Il devrait être célèbre, voilà ce que l'on sut dire s'élève. Je n'ai plus qu'à l'écrire. Les femmes du train, c'est une petite ode pour les Mouna, les Noémie, les Lucie et les Maud. Les femmes du train, les Mélopée pour les Caroline, les Aïcha, les Pénélope et les Amandine. Les femmes du train. Je vous ai apporté une chanson. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis il y a cette femme qui m'attend au terminus. Peut-être depuis une éternité. Elle me souhaite la bienvenue. Me dit que mon errance est terminée. Satellite de l'amour comme Louride. J'ai peur de lui tourner autour jusqu'à l'heure des rides. D'abord je la dénigre. Depuis trop longtemps j'attends qu'elle me délivre. Pris de délire. Plusieurs fois j'ai cru l'apercevoir dans les lignes d'ex-copines. Plus tard je saurais que ce n'était que des pâles copies. Des filles qui n'ont pas le profil. Des filles qui ne sont pas toi. Et elle est belle parce qu'elle me plaît. Même si elle te plaît pas à toi. Ses baisers sont des pansements. Je n'ai plus de plaies. Je la pense blanche, noire ou asiatique. Peu importe, chaque fois sa beauté me laisse quasi atone. Tant de crochets à tôt que parfois on ne parle plus. On se regarde juste. Elle a des formes à faire se dévoyer un dévot aux portes de l'immortalité. Aux portes d'immoralité, je dirais qu'elle a un incroyable huc. Elle est pas conne. Au club des clones, d'icônes en toque. Elle est pas connue. Elle est pas commune. Quand je l'ai vue la première fois, c'était comme prendre une claque de l'incroyable Hulk. C'est ma muse qu'elle pige. Elle aime ma musique et la pige page par page. Elle m'inspire. Ses compétences satisfont mes appétits. Ses appétits font mes appétences. Son avis a de l'importance. Elle me serre la vis quand c'est opportun. Si je manquais d'un but dans la vie, elle m'en apporte un. En attendant, pauvre con, je tourne en rond. C'est un poème pour les Marlène, les Yasmina, les Aurélie, les Hélène et les Céline. Les femmes du train. C'est un mandrigal pour les Magali, les Gaël, les Florian, les Anaël, les Marilyn. Les femmes du train. C'est pour toi, toi, toi et toi. C'est pour toi aussi d'abord. Ah, les femmes du train.
Black Sad, les femmes du tram. Donc retour avec notre invité Alexandre Goss. Alors donc puisqu'on vient d'écouter du hip-hop, une première petite question par curiosité. Est-ce que c'est un genre que t'écoutes, que t'apprécies?
Que j'apprécie, oui. D'ailleurs j'aime beaucoup les trams déjà. sinon très franchement j'en écoute pas plus que ça. Donc j'aime en auditeur de passage, on va dire.
Et du rap, tu en écoutes pas tellement, mais je crois, enfin, on va parler beaucoup de jazz, mais je crois que le jazz, c'est pas forcément ta première musique. En tout cas, la première musique que tu pratiquas, allez, employons un petit peu de, je sais pas, de
pas assez simple.
Puisque il me semble que tu as plutôt commencé par les musiques ou la musique africaine, puisque tes premières expériences musicales, tu les as eues au Congo, si je suis bien informé.
Oui,
si mes sources sont bonnes, si Hugues les bons tuyaux.
Elles sont à la fois bonnes, à la fois incomplètes, c'est-à-dire que je ne suis pas né au Congo. J'y ai vécu 6 ans, effectivement, c'était une période importante de ma vie, notamment de ma construction musicale. Mes premières amours musicales, c'est plutôt les musiques que m'ont fait écouter mes parents. Donc là, c'était plutôt Beatles, Pink Floyd, et voilà, quand j'étais
la
au
pop,
piano, c'était.
La voilà. Musique de l'époque.
Exactement.
C'est-à-dire les années 50, puisque.
60, Beatles, c'est plutôt années 60.
Je déconne.
Mais ouais. Effectivement, à l'âge de 9 ans, nous sommes allés nous installer au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire exactement. Et donc là, l'univers musical dans lequel je baignais, c'était vraiment la rumba zaïroise. Donc c'est vraiment d'autres références. Ce n'est pas forcément une musique que j'ai écoutée comme une musique de prédilection à la maison. Mais
c'était
par contre,
plutôt c'était... le bain musical dans lequel
exactement.
Tu donc, baignais justement.
Voilà, c'était l'ambiance. Quoi. Voilà. C'est la musique des villes. Quoi. On était là-dedans. Quoi. Et de plus, j'ai rencontré là-bas en fait des musiciens de bal, mais de bal africain, avec qui donc j'ai sympathisé, où j'ai commencé à travailler dans cet orchestre en fait assez jeune, à 15 ans, en fait. Oui, parce que j'avais quand même un passif déjà, en fait. J'avais fait du conservatoire avant d'aller au Congo. Ouais. Donc, j'avais aussi déjà une toute petite patte de 2-3 ans au conservatoire pour jouer de la musique classique. Donc,
Donc piano à cette époque-là déjà ou,
voilà.
Au conservatoire. Oui,
Ouais. Et puis, il y a 15 ans, alors là, pour le coup, c'était... non, je jouais, en fait, un peu tout, la guitare basse, la guitare électrique et également, donc, du clavier. Et c'est au clavier, par contre, que j'ai intégré, justement, un orchestre de bal africain où, d'accord, là, on jouait un peu tout, et notamment la rumba zaïroise, oui.
Ah, fantastique. Et donc, le jazz dans tout ça, à quel moment il arrive ?
À quel moment il arrive ? Il arrive à la même époque, justement, je crois, c'est à l'âge de 15 ans. Par pur hasard, je vais, un ami m'invite comme ça dans une salle où il commençait à y avoir un festival de jazz qui se montait, donc à Pointe-Noire, par le Centre culturel français, qui invitait comme ça des artistes qui étaient en tournée africaine. Et donc le premier concert que je me suis pris comme une belle claque de celles qui font du bien, c'était un concert de Louis Winsberg. À l'époque de son album Camino, et donc là c'était vraiment une grosse claque, mais d'autant avant même le concert j'étais arrivé en fait à l'avance, voilà, j'avais eu le droit de rentrer parce que je connaissais les techniciens, et en fait donc je suis arrivé pendant leur balance, ils arrivaient évidemment sur le tard, et donc là il y avait déjà un buff qui était monstrueux sur scène où il y avait Louis Winsberg donc, qui était sur scène, et à la basse, en fait, il était accompagné par Sylvain Luc, qui aujourd'hui est également très connu en tant que guitariste, mais qui là était à la basse. Et en fait, ils étaient tous les deux accrochés à la même guitare, et ils faisaient un buff sur la même guitare, et c'était absolument monstrueux, et c'était pas que impressionnant, parce que c'était un espèce de gros monstre à quatre pattes qui jouait sur une seule guitare, mais c'est que c'était très, très, très
musical,
bon, quoi.
Ouais. Et une précision, parce que Louis Winsberg, c'est peut-être pas le premier artiste de jazz auquel on pense quand dans une vie, on découvre le jazz, on entend toujours, oui, bah, au début, il y avait mon père qui écoutait Louis Armstrong, enfin, du vieux jazz. Rassure-moi, t'avais quand même eu entendu avant du jazz un petit peu, tu savais ce que c'était,
Oui et non, enfin, c'est-à-dire que je savais ce dont tu me parles, j'avais une idée stéréotypée du jazz, c'est-à-dire le jazz en fait qu'on pourrait arrêter aux années 60 finalement jusqu'au jazz des années 50, oui j'avais, je connaissais Art Blakey, je connaissais Duke Ellington, je connaissais quelques légendes.
Tout de même,
mais
un petit peu quand même alors.
Oui, mais sans franchement les écouter, justement comme d'accord, considérant ça un peu comme la musique du passé. Et là, je me suis vraiment rendu compte que ça n'avait rien à voir avec le passé, que ça n'avait rien à voir d'ailleurs avec cette musique-là. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il tournait donc en plus avec un accordéoniste. Alors que moi, je dis en plus parce que je raccordais également ça au passé. Pour moi, comme beaucoup de gens qui ne savent pas justement combien cet instrument peut être éminemment moderne. Et donc voilà, donc il y avait une tournée, donc il est dans cette esthétique en fait de fusion entre le jazz, mais aussi toutes les musiques du monde et voilà, aussi bien la musette que le swing, mais surtout dans un énormément d'envie de faire la fête sur scène, quoi, à partager. Et c'est ça que je me suis vraiment pris, quoi.
Ah, d'accord. Et alors, donc, quand même, les choses sont absolument incroyables, puisque nos studios à Brazza nous ont retrouvés. Donc, Louis Winsberg, qui joue TGV sur le fameux album Camino. C'est parti.
Camino, donc l'album de Louis Winsberg en 1990 sur lequel figure ce morceau qu'on vient d'écouter, TGV. Louis Winsberg, tu peux nous le présenter puisque c'était ton premier choix, Alexandre, dans cette sélection que tu nous as concoctée pour cette émission.
Oui, bah, je vous remercie. Déjà, j'ai revécu ce magnifique concert. Je me souviens encore la standing ovation à la fin. Nous étions 14 tous debout sur scène, cette petite salle de cinéma de Pointe-Noire au Congo. Et donc oui, Louis Winsberg, bon, alors là, évidemment, je pourrais vous dire un peu son parcours, mais bon, ça peut parler à des initiés. Mais disons que dans les années, à la fin des années 80...
C'est un Français déjà, c'est un...
Oui, il est français. Voilà. Je crois qu'il est de Marseille. Donc, je veux dire, il a toute la culture méditerranéenne, justement, qu'il transporte très souvent dans ses valises. Et comment dire, à la fin des années 80, en jazz, il y avait toute une mode en France de fusion de tous les groupes qui sont arrivés après le fameux groupe légendaire Weather Report aux États-Unis.
Ouais, jazz rock.
Voilà, et fusion, c'est-à-dire ouvert en même temps évidemment aux musiques actuelles dans le rock, mais également aux musiques du monde.
Ouais.
Et en France, il y avait deux grands groupes. Il y avait Sixson, avec justement... donc il y avait notamment Lou Winsberg à la guitare, et l'autre grand groupe c'était Ultramarine avec Nguyen Le qu'on a vu à Évron là il y a quelques semaines encore
en concert.
Voilà, donc ça c'était les deux guitaristes héros en France dans ce style là justement de musique. Et donc bah, c'est ça en fait, c'est le groupe Sixson en fait, par lequel il a explosé, et ensuite il a mené justement une carrière un peu solo en croisant beaucoup le flamenco, voilà, enfin beaucoup de culture avec la danse, il a beaucoup travaillé le flamenco justement par la suite. Là, il revient, je crois qu'il a sorti un album, mais non, je peux pas vous parler, mais qui s'appelle Marseille Marseille, que je peux pas vous parler parce que j'ai tout simplement pas écouté. mais voilà, je crois qu'il est toujours à traverser justement toute la culture méditerranéenne. Voilà.
D'accord, excellente présentation. On va continuer sur ton parcours justement à toi. Donc tu nous narrais tes aventures musicales au Congo, où tu fais tes armes en fait dans un groupe de bal. Mm-hmm. Tu découvres le jazz, en tout cas le jazz moderne, enfin celui qui va vraiment te parler via ce concert de Louis Winsberg. Et puis tu rentres en France très peu de temps après finalement. Mm-hmm. Où tu t'installes avec tes parents à La Rochelle, si encore une Exactement. Fois, si j'ai bien révisé. Mm-hmm. Et voilà, comment ton parcours de musicien se poursuit à ce retour en France
Eh ben, mon retour en France, au départ, c'est musicalement une sorte d'errance, parce que je ne côtoyais absolument personne avec qui je pouvais vivre ce que j'avais vécu au Congo, c'est-à-dire jouer avec des musiciens professionnels, faire des concerts absolument toutes les semaines, faire danser les gens, voilà. Mmh. Là, j'arrivais en France dans un autre système où, bon, voilà, il n'était pas question, comme ça, à 16 ans, que j'arrive directement aux côtés des musiciens intermittents du spectacle pour faire du bal, qui n'était pas du tout, là, d'ailleurs, le même type de bal que je pouvais faire, donc... Mmh. De plus,
j'imagine.
Oui, de plus, j'avais pas du tout non plus envie de mettre les pieds dans un conservatoire à cette époque-là, tout simplement parce que voilà, pour moi, j'ai moi qui avais un peu connu un peu les feux de la rampe, enfin en tout cas, la scène, quoi, tout simplement. Ce que je voulais, c'était ça, c'était jouer, c'était pas forcément prendre des cours, c'était jouer, mmh. voilà. Mmh. Et donc voilà, bah, ceci dit, donc là c'est au gré des amitiés, hein, donc qu'on fait son parcours, c'est pas forcément des choix esthétiques. C'était vraiment, et donc je me suis retrouvé comme ça à faire même du saxophone baryton, à l'harmonie de la flûte en ré, à faire de la guitare rythmique dans des bars pour des groupes plus pop rock. Voilà, faire des groupes de reprises de Police, de plein de choses, quoi, nombreuses et variées.
Et, une recherche, quoi. Une voilà. recherche et puis construction.
Et en fait, au bout d'un moment, donc c'est pas un hasard, si je me suis retrouvé à accompagner un musicien sénégalais, où on commençait à tourner dans les boîtes antillaises, voilà, dans ce type de réseau-là. Et en fait, à la batterie, il y avait Pascal Ducourtiou, un batteur de jazz par ailleurs, enfin de jazz justement ouvert, multi-ethnique, voilà, et qui était en fait en train de reformer une nouvelle formation. Donc là, on est en 95, voilà, ça doit être ça. Et donc là, il y a un faisceau de raisons qui ont fait que j'ai décidé à ce moment-là de commencer à donner des cours, d'arrêter les études, donc j'étais à la fac, et de commencer ce groupe-là. Et ce groupe-là a démarré en fait assez fort, parce qu'en moins de quelques mois, on avait déjà des tournées, plusieurs tournées internationales, on avait un disque de signé chez Crystal Productions, on avait quelques tournées en scène nationale en France, voilà, ça avait démarré très très fort, ça s'est arrêté très très fort aussi.
Et donc tu n'as pas mentionné le groupe, je crois.
C'était Dérive, le groupe Dérive, donc avec Jean-Jacques Rollman notamment, qui est une personnalité aussi intéressante du jazz en France, et donc Pascal Ducourtiou et Adèle Azouz. Voilà, et on a tourné comme ça pas mal d'années, on se voit toujours régulièrement. Même si le groupe n'a pas une grosse actualité, c'est le moins qu'on puisse dire.
D'accord, donc le groupe, on va l'écouter un peu plus tard dans l'émission. Mm-hmm. Continuant ton parcours, tu as quand même fini par devenir professeur de musique.
Ouais.
Alors que tu viens d'expliquer qu'effectivement, la scène, c'est quand même le virus et c'est ce qui te tenait, enfin qui tenait à cœur. Donc, pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est purement alimentaire ou est-ce que... derrière, la question de l'enseignement est quelque chose qui t'attire, quoi. Qui t'attirait à l'époque.
Alors, à un âge, disons qu'à 19 ans, quand j'ai pris la décision justement de faire de la musique au sens très large ma vie, professionnelle en tout cas, donc justement, je me suis déclaré en tant qu'à l'URSSAF, en tant que travailleur indépendant, et je déclarais tout ce que je gagnais musicalement, c'est-à-dire aussi bien les cours que je pouvais commencer à donner, donc évidemment alimentaire et, au départ, et donc les concerts. Simplement, quand je dis évidemment alimentaire au départ, ça c'était justement simplement pour payer ma couverture sociale, voilà, combien il fallait que je gagne, donc combien il fallait que j'aie d'élèves, voilà, c'était un calcul tout simplement. Simplement, évidemment, à force de rencontres avec les élèves, à force de transmission, de se poser des questions sur la transmission, de voir la communication, comment on reçoit l'élève, comment lui faire passer une idée, comment lui faire passer une sensation. Enfin, après, il y a évidemment tout un ensemble de choses d'ordre totalement pédagogique et humaine, en fait, que j'ai commencé à vivre comme une expérience extrêmement plaisante. Et voilà. Et donc, ensuite, au bout de quelques années, au bout de 3-4 ans où je menais comme ça cette vie à la fois de prof indépendant et de musicien de jazz, sachant que les concerts, bon, voilà, on n'est pas dans une période où il y avait énormément de possibilités de jouer dans les cafés-concerts, donc il y avait pas mal de dates, mais tout ça, comme dans toutes les villes, à La Rochelle comme ailleurs, commençait à sombrer un petit peu. Hein. Donc c'était beaucoup plus difficile, on va dire, d'avoir autant de dates, donc après, il fallait que je fasse un autre choix. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais peut-être revenir au conservatoire pour passer quelques diplômes et pour pouvoir travailler justement dans de bonnes conditions, parce que voilà, dans le privé, c'était un peu difficile. Voilà.
D'accord. Et donc, et tu dis que tu as pris plaisir, voilà, au contact avec les élèves, à l'enseignement. Donc, et aujourd'hui, ça fait partie de ton métier. Et est-ce que la pédagogie influence ta création, enfin on va en revenir aussi sur tous tes projets ensuite en tant qu'artiste, est-ce qu'ils se nourrissent l'un l'autre ou est-ce que c'est quand même deux mondes à part ?
Non, c'est pas deux mondes à part déjà parce que j'ai qu'une seule vie, simplement est-ce que la pédagogie nourrit ma création ? C'est probablement plutôt le contraire en fait qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas, je pense, être pédagogue si j'avais pas une vie de musicien active. Je ne me sentirais pas à ma place. Le contraire n'est pas forcément vrai. En tout cas, aujourd'hui, je trouve un équilibre tout à fait intéressant dans cette double vie, même si elle est unique.
On vient d'écouter le superbe deuxième choix de notre invité, Alexandre Gosse. D'ailleurs, peut-être qu'on peut te laisser présenter l'artiste qu'on vient d'écouter, Alexandre.
Ah, l'artiste, c'est Cat Jarrett, donc probablement une des personnalités les plus médiatiques du jazz actuel. Et donc voilà, Cat Jarrett, c'est un personnage assez multiple. Là, on est dans un album début des années 80, fin des années 70, et qui est la période la plus prolifique, en tout cas la plus à mon goût aussi, où il menait de front une carrière solo, deux carrières en quartet, c'est-à-dire le quartet américain, le quartet européen. Le trio était en train de se profiler, il faisait voilà, de la composition, de l'écriture pour symphonique, de l'improvisation libre, voilà, avec le fameux concert à Cologne. Donc voilà, c'était une période extrêmement dense, alors qu'il devait avoir une trentaine d'années, ou non, peut-être 40 ans, je crois qu'il doit être de 43.
Je pianote sur mon ordinateur pour vérifier.
Et alors, on confirme, il n'y a pas de téléphone portable devant lui ni d'ordinateur. Ah. Tout ça de mémoire.
Et donc voilà, donc ça c'est une période vraiment que j'aime beaucoup, qui est notamment le quartet américain. Donc avec donc là ils étaient en trio, mais il y a Dower and Mann, sinon là, vous n'avez pas entendu au saxophone. Mais donc là c'est avec Charlie Haddon, Paul Mossian. Et donc là, c'est dans l'univers de à la fois de composition et de grandes improvisations où on ne sait jamais exactement ce qui va arriver. Il y a des scénarios musicaux totalement improbables. Et donc là, c'est évidemment un simple extrait de 5 minutes d'un morceau qui en dure 20 et qui même... parce que la fin, là, le chinte, autant on est arrivé sur un chinte fait par vous, mais pas le final. Le final, non. Parce que voilà, probablement à cause de l'époque du vinyle où il devait couper à la fin du... morceaux, tous les morceaux étaient trop longs, donc c'était pas possible d'avoir tous les morceaux dans l'intégralité.
Donc c'est coupé brutalement. Quoi.
Voilà, mais donc ça fait partie des morceaux que j'ai écoutés pendant mon adolescence, toute lumière éteinte, voilà, pendant des heures. Quoi.
D'accord, donc on en déduit, on aura compris que c'est une de tes influences. Bon, comme tout musicien, on est curieux de savoir justement ce qui t'influence, ce qui t'a influencé, bon, ce qui t'influence aujourd'hui. Alors j'imagine que c'est le genre de question... auquel il est peut-être difficile de répondre parce que y a tellement de choses. Mais bon, on voudrait quand même savoir qu'est-ce que tu écoutes. Est-ce que tu n'écoutes que du jazz, par exemple?
Non, ça marche beaucoup par période. Non, c'est vrai que le jazz, aujourd'hui, je dois écouter 90% de jazz, oui.
J'avoue.
Voilà, mais c'est pas représentatif de toutes les périodes de ma vie. Voilà, en bon trentenaire, j'ai eu toutes mes périodes Portichet, Radiohead, Björk, hein, voilà, la discographie du vrai trentenaire, mais aussi beaucoup de musique du monde aussi, forcément. Vous savez, dans le jazz, il y a tout le temps le problème un peu identitaire du musicien. Alors déjà, moi qui ai fait mes armes en Afrique, dans un orchestre où j'étais le seul blanc, le seul jeune, donc voilà, où il y avait... très peu de liens, sinon le plaisir de jouer ensemble, mais culturellement on était tous très très différents, et donc j'étais vraiment très très à part. Donc le côté étranger, c'est déjà une question existentielle, déjà pour moi assez forte. Mais alors dans le jazz, déjà être français et faire du jazz, qu'est-ce que ça veut dire? Être blanc et faire du jazz, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est des questions qui sont qui sont tellement importantes que j'en oublie exactement le fruit de la question.
Non, c'était sur tes influences, mais justement, c'est vraiment passionnant ce que tu racontes, et effectivement, un peu plus tôt dans notre discussion, on parlait du fait que oui, tu avais connu un petit peu comme ça les pères du jazz de Louis Armstrong, qu'après t'as eu Louis Winsberg dans ta vie qui est arrivé, qui t'a fait une sorte de révélation. Malgré tout, effectivement, on a toujours une filiation des influences. Et pour faire du jazz, est-ce que selon toi, il faut connaître une tradition, il faut connaître la tradition pour pouvoir s'en éloigner, ou est-ce qu'on peut faire du jazz ex nihilo?
Bah, j'ai fait du jazz ex nihilo.
Ah, voilà. Bravo.
Mais non, mais
il parle au passé.
Déjà, c'est juste un exemple parmi ou un profil parmi des tas de profils possibles. Il n'y a pas de chemin type. Après, c'est la vie, les rencontres qui font ça. Après, ça dépend. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Laval, je me suis retrouvé donc comme ça sur un poste en tant que responsable du département de jazz du Conservatoire de Laval. Avec cette étiquette sur la tête, je décemment, quand bien même moi mon chemin était d'arriver au jazz par la rumba zaïroise, on va dire, je me voyais pas comme ça, de, avec justement des élèves qui n'avaient pas du tout le même parcours que moi, je me voyais pas comme ça de transmettre toute cette culture-là sans avoir justement des notions de toute cette histoire du jazz. Et étant en même temps une sorte de boulimique de culture, j'avais de culture en plus musicale, a fortiori de jazz, de toute façon j'ai voulu faire un peu le chemin en marche arrière justement pour remonter un peu toutes les sources, tout ce à côté de quoi j'étais passé pendant toutes ces années et qui a nourri ce que j'aimais. Donc j'avais besoin de savoir d'où ça venait, tout ce que j'aimais. Donc après, oui, mais ça, c'est une démarche personnelle. Il y a des musiciens qui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de musiciens qui, dont leur référence, ça va être Frank Zappa ou Jimi Hendrix, beaucoup plus. Et même quand vous regardez un orchestre comme l'Orchestre National de Jazz, c'est-à-dire l'étiquette justement de l'orchestre qui est censée représenter le jazz en France, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un projet qui se réfère à autre chose qu'au rock.
Mais
en
oui,
fait.
Oui, effectivement. Donc, Led Zeppelin, je sais plus le dernier.
Robert Wyatt aussi, mmh. Effectivement. Mmh. Il y a une chose que tu m'as dit qui m'a interpellé. Est-ce qu'on peut faire du jazz et être blanc? Mais il y a des milliers de musiciens jazz blancs. Je crois que la question se pose beaucoup moins quand même aujourd'hui. Soit ça t'interpelle ce truc-là encore, le jazz comme une musique noire d'abord et qui pose question de l'illégitimité en tant que musicien blanc de faire du jazz.
C'est pas comment dire. On a tout le temps, non, visiblement non. Mais en tout cas, il y a une notion qui est quand même importante artistiquement, c'est celle d'authenticité. Mmh. Et quand bien même on peut aimer très profondément, par exemple le blues. Et je sais qu'il y a des musiciens, par exemple l'année dernière à Château-Gontier, là où nous sommes, on a eu le plaisir de recevoir Likonitz. Mm. Likonitz joue quasiment jamais du blues parce qu'il ne se sent pas de jouer sur le blues. Mm. Pour lui, c'est pas sa musique.
Saxophoniste blanc américain.
Voilà, Likonitz. Et pour, c'est non seulement un saxophoniste blanc américain, mais c'est, pour nous aujourd'hui, ça représente un peu une légende du jazz. Donc c'est l'histoire du jazz. Cette histoire-là du jazz, lui, ne se sent pas de jouer du blues. Mm. Bon, par exemple, bon, c'est son choix, c'est son éthique, on va dire. Mais en tout cas, c'est une question, à mon avis, qu'on ne peut pas ne pas se poser.
Mm. On peut aimer une musique sans être légitime pour la jouer. C'est ça que tu veux dire, en fait, ou être capable de véritablement bien la jouer.
Ouais, mais en tout cas, c'est pas quelque chose à défendre ou à prouver aux autres. C'est vraiment quelque chose d'intérieur et d'intime. Mmh, c'est pas pour convaincre le reste du monde, de toute façon, parce qu'il y a effectivement plusieurs profils, plusieurs façons de penser qui sont toutes aussi respectables. L'important étant le résultat. Mais voilà, c'est de se sentir à sa place dans ce qu'on fait. C'est la moindre des choses, quoi. Voilà.
Alors, en parlant d'histoire du jazz, etc. On va pouvoir écouter le morceau suivant de ton choix, Paul Mossian. Donc tu l'as mentionné, qui jouait avec Keith Jarrett tout à l'heure. Là, on a Two Women from Padua. Ce batteur est décédé il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il a représenté pour toi aussi?
Oui, bah, c'est aussi un peu pour ça d'ailleurs que ça me faisait plaisir aussi de pouvoir l'évoquer là, mais c'est pas que pour ça, hein. C'est que ça a été vraiment une grande source d'influence, mais d'influence en tant que... C'est quelqu'un qui m'a donné vraiment à réfléchir, autant que la simple pure émotion à l'état brut, mais dans cette notion de recherche, souvent les musiciens de jazz qui recherchent finalement au fond, mais avec des réponses toutes différentes, c'est une certaine forme de liberté. Et lui, ses propositions sont des propositions qui me parlent, c'est-à-dire... comment faire en sorte qu'une mélodie, et une mélodie simple, soit source d'une grande liberté, ne soit pas justement un cadre finalement strict enfermant avec une grille harmonique de laquelle on ne peut pas sortir, avec une mélodie qui soit suffisamment obsédante pour que ça trace tout le chemin qu'il y a derrière. Non, lui, c'est en même temps, ça a l'air très très simple et il arrive à donner à cette simplicité une ouverture que je trouve assez extraordinaire et qui m'a toujours... tout le temps donné à réfléchir et même à composer, des fois, essayer de trouver un peu ce type de direction-là, quoi.
Voilà, Paul Motion sur un album sorti en début des années 90 qui s'appelle Motion in Tokyo. Voilà, un album en live, comme vous auriez pu le comprendre. On parlait, Alexandre, de l'éclectisme de tes goûts et voilà, de la recherche que tu as pu avoir aussi dans différentes périodes du jazz. Et ça se traduit aussi par, et on peut en venir justement à plutôt tes projets à toi, tes projets artistiques, ça se traduit aussi par une diversité justement dans les projets auxquels tu peux collaborer ou que tu peux initier, aussi bien dans la forme de ces projets qui peuvent être comme Alderna Blues, une fanfare ou même un projet solo, puisqu'on va parler tout à l'heure du ciné-concert que tu es en train de préparer où tu évolues seul. Que dans les esthétiques pardon abordées, puisque il y a des choses qui sont plutôt qui versent plutôt dans le jazz un peu à la Miles Davis période électrique avec un trio je crois auquel tu participes, et des choses qui sont plutôt de l'ordre des standards du jazz plus traditionnel. Ouais. Donc voilà, beaucoup de projets, tu peux nous en parler un peu?
Oui, vous parlez de tout ça, oui, ça risque d'être difficile vu le temps qui nous est imparti de parler de tout ça, mais la logique de tout ça, ça rejoint un peu ce que je vous disais par rapport au questionnement, problème identitaire. Quand je dis problème identitaire, c'est pas une souffrance, au loin de là, c'est simplement un questionnement justement, que faire avec tout ça, justement, avec cette histoire-là.
Où est ma place dans tout ça?
Ouais, sachant que c'est en fait... assez difficile finalement de se placer quand on aime énormément de choses différentes.
Mmh. Tout est possible, tout est tellement, il y a tellement de voix possibles.
Voilà, même si je vous disais que tout à l'heure que je vous écoutais, que j'écoutais à 90% du jazz en ce moment, parce que rien que dans le jazz, j'écoute pas un jazz, j'écoute énormément de jazz très différents. Et donc voilà, c'est important pour moi de toute façon, quand je commence à apprécier une esthétique, quelle qu'elle soit. J'ai en général la question qui me vient très très vite, c'est qu'est-ce que moi j'en ferais, qu'est-ce que je pourrais apporter comme réponse sur, alors si vous parlez de Far West Coast, c'est une esthétique qui est quand même très ciblée dans les années 50, un type d'écriture dans les années 50. J'aurais pas voulu jouer un projet West Coast façon West Coast avec des musiciens qui ne connaissent que ça, qui ne jouent que ça. Mm. Ce qui est intéressant.
Faire quelque chose de l'ordre du puriste, quoi, comme si on était dans les années 50. Toi, tu voulais le relire à ta façon, dans l'époque d'aujourd'hui aussi, j'imagine.
Dans l'époque, c'est-à-dire surtout m'entourer de musiciens qui sont, eux, tous inscrits justement dans des projets très, très contemporains, qui ont des démarches beaucoup plus modernes, qu'on retrouve dans des groupes beaucoup plus modernes. Mm. Et c'était de leur proposer justement de mettre leurs pieds dans cette musique-là, qu'ils ont tous, comme moi, dans une partie de leur cœur. Et donc voilà, c'était de savoir comment, qu'est-ce que ça ferait si on nous plongeait là-dedans, quoi. Donc c'était un peu ce plaisir-là. Et quelle liberté, justement, par rapport à l'autre question dont je parlais, on pouvait donner à partir de ces codes-là. Donc finalement, c'était de mélanger des perspectives de cette époque à celle de nos jours, avec des musiciens de nos jours, quoi. Mmh. Donc ça, c'était ce projet de Far West Coast, mais... là, si tu me parlais d'Alderna Blues, Fanfare, alors là, c'est parti en fait d'un truc assez drôle, souvent assez drôle. C'est tout simple. Au départ, c'était une commande pour le festival des Uberlesques.
Feu Festival des Uberlesques.
Voilà, où on m'avait demandé d'ailleurs, à moi, pianiste, de monter une fanfare.
Bonne idée.
Et alors, c'est ça. Et donc, au début, évidemment, je trouvais ça, bon, il a dû avoir... malentendu, je suis pianiste. Et après, justement, c'est qu'est-ce qu'un pianiste pourrait faire justement avec tous ces cuivres-là. Et en fait, il y avait... et ça, pour le coup, dans le jazz contemporain actuel, il y a tout le temps la question de la formation. La formation en type... justement, composition, l'instrumentation, l'instrumentarium.
Le casting, on va dire.
Voilà, exactement. Mais pas en termes de personnalité, mais en termes de sonorité.
Ouais.
Et en général, on est tout le temps à la recherche d'une nouvelle sonorité, justement, si possible inédite, même si ça ne doit plus énormément exister. Mais en tout cas, là, justement, d'avoir une sorte de fanfare plus piano avec batterie, percussion, tout l'attirail de
fanfare. Ça ouvrait donc, des nouvelles voix, quoi.
Ouais, ça inspire en fait, ça inspire. Donc voilà, en plus, c'est après toutes les personnalités musicales, justement. En général, à tous les projets dont je pourrais vous parler, j'essaie de m'arranger pour qu'il n'y ait pas du tout les mêmes personnes à l'intérieur. Parce qu'en même temps, pour moi, c'est des rencontres. Et en plus de musicales, c'est évidemment des rencontres humaines, des façons de voir, des façons de penser. C'est pas que sur le lien esthétique, quoi.
Moi, effectivement, Nicolas, tu en as déjà cité un bon paquet. On vient d'en reparler de quelques-uns. Alors, je sais pas si, en fait, on peut les lister. Tu sais précisément le nombre de projets ou c'est un peu au doigt levé
de projets que j'ai pu faire dans ma
vie.
Qui
peuvent avoir une actualité et dont les auditeurs de l'autre radio peuvent avoir la chance de croiser la route un jour, quoi.
Et très très peu en fait. Moi je pourrais vous parler en fait. Far West Coast en fait peut encore exister au bon vouloir des programmateurs. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai suivi l'année dernière et donc et tout le temps j'ai encore des choses à dire avec ça, même si pour l'instant c'est pas prévu, mais pour l'instant j'ai ce piano solo dont on pourra parler tout à l'heure sur le film Metropolis, mais j'ai également une création là où je vais avoir quelques jours de résidence avec un trio sans basse, un instrumentarium intéressant qui est très très peu utilisé en fait, trompette, piano, batterie. Je connais comme ça un trio de Cecil Taylor, mais c'est tout. Et donc là, c'est dans une esthétique radicalement différente à Cecil Taylor. C'est parce que déjà, c'est avec Geoffroy Tamizier qui est dans un autre monde. Beaucoup plus lyrique, beaucoup plus charmant, beaucoup plus doux. Et donc avec Popoff, Jean Popoff Chevalier, donc, qui est une figure de nantaise, du jazz nantais. Et donc voilà, là, on a une 4 jours de résidence.
Super équipe.
Ouais, je suis voilà, très content de cette formation. On va avoir
qui
un
est l'initiative de, du coup, de Geoffroy, peut-être de.
Non, de, né, en fait. Ben, de moi, en fait. C'est le Panonica m'avait contacté, me proposait une carte blanche, en fait, pour cette année. On va aller faire un concert également. Et donc, voilà, moi, Geoffroy, ça fait longtemps qu'on le voit aussi en Mayenne. Ça fait, il a participé.
Le trompettiste qui est installé à Nantes, ouais.
Voilà, il a participé à beaucoup de projets. Et donc, ça fait plusieurs fois que je l'entendais et que j'aimais vraiment son son, sa conduite, sa musicalité. Jusqu'ici, je n'avais jamais trouvé l'idée ni l'occasion en fait, de le contacter. Mais voilà, là, je me suis dit, maintenant, là, j'ai envie de le rencontrer musicalement. J'ai des choses à dire là, avec lui. Et puis, il a accepté. C'est surtout ça. On s'est rencontrés humainement juste avant, en fait, justement, au Festival Le Mêlée. On a eu l'occasion un peu de discuter, de jouer ensemble de façon un peu informelle dans un bœuf. C'était pas une rencontre musicale, c'est une rencontre humaine. Et voilà, j'ai senti que déjà de ce que je savais de lui en tant que musicien et ce que j'avais pu partager humainement, voilà, j'avais des choses que je voulais partager avec lui, quoi. Et voilà, donc alors ça pour le coup, ça, on va avoir un concert au Panonica, mais bon, j'espère, a priori il y a des pistes, mais non, je peux pas vous parler là aujourd'hui parce que rien n'est officiel, mais il y aurait des pistes pour qu'on puisse avoir le plaisir, j'espère, d'entendre cette formation en Mayenne prochainement.
D'accord, peut-être au Festival de Jazz de Mêlée, sait-on jamais.
Peut-être.
Je lance une piste, mais bon, oui,
peut-être, mais
pas que. Ok, super, bah, merci en tout cas pour tous ces détails sur ces projets à venir. On va écouter ton choix suivant, donc un duo inédit, je sais pas, enfin piano-voix en tout cas, qui a marqué l'histoire du jazz, Rain Black et Jane Lee, voilà, Jane Lee pour parler à l'anglaise, avec un morceau qui s'appelle Laura.
she gave your very first kiss to you. That was Laura, and she's only a
voilà ce touchant duo, Rand Blake et donc Jeanne Lee. Alors, il y a eu un grand débat pour savoir si, à l'anglaise, Jeanne qui s'écrit comme en français se prononce Janie. Ou...
Donc, les chers auditeurs,
les auditeurs voilà, sont invités à se manifester. Le titre est donc Laura. Et Alexandre, tu as choisi ce morceau. Nous as-tu dit, et j'aimerais que tu nous l'explicites, parce qu'il y aurait un lien avec le cinéma.
Oui, pas le morceau, enfin si, le morceau aussi, le titre en tout cas, parce que Laura, c'est tiré donc du film, du même nom, Laura d'Otto Preminger, mais, parce que ça c'est anecdotique, mais c'est simplement Rand Blake, d'une façon très générale, est très très inspiré par le film noir. Il a écrit, il a fait beaucoup de, d'albums d'ailleurs en hommage à Hitchcock, entre autres, mais c'est surtout, il a un jeu où, c'est par rapport à son intériorité, par rapport à son influence. C'est quelqu'un voilà, qui fonctionne de façon très très visuelle et il a comme ça une façon de jouer des couleurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de vous rendre étrange un accord majeur quoi. C'est, et avec ce jeu extrêmement, extrêmement félin tout le temps, assez, assez sombre, on sent comme ça un peu tapis dans l'ombre et d'un coup paf, vient le coup de griffe qui arrive et voilà, il y a quelque chose de très comment dire, oui, on pourrait dire presque, c'est presque un personnage quoi, quand il joue. Enfin, moi, je vois un peu toute sa conduite comme celle d'un personnage dans un film. Quoi.
D'accord.
Ça, voilà.
Alors, j'imagine que tu y penseras probablement demain, car donc, je rappelle que tu vas donner un ciné-concert, tu vas accompagner un film, et pas n'importe quel film, Metropolis, au cinéma Le Minguet à Segré à 20h. Nous le rappellerons certainement, mais voilà, les auditeurs peuvent déjà prendre date. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le,
bah, le film?
Bah, ouais, mais bien sûr. Non, mais bah, voilà, déjà, pourquoi ce film? Pourquoi ce projet? D'où ça sort?
Ah, pourquoi ce film? En fait, c'est une proposition tout simplement du théâtre qui m'a appelé un jour, voilà, qui avait eu mon contact et qui désirait faire un ciné-concert. Et donc, il savait que j'avais déjà eu cette expérience. Et donc, en fait, ils m'ont proposé, il y avait une possibilité de faire pour cette année soit Metropolis, soit le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Et donc, voilà, moi j'ai trouvé que dans Metropolis, naturellement, j'entends par rapport à ma nature, beaucoup plus inspiré par Metropolis, où j'y trouvais beaucoup plus de registres à jouer. Et donc, en plus, il y avait une actualité qui est assez, assez belle par rapport à l'histoire du cinéma, parce que le film ressort là, mais cette année, c'est vraiment tout récent, fin 2011, il est ressorti dans quelques salles. Parce qu'il est enfin visible, je dis enfin visible pour notre génération, dans sa version intégrale. Parce qu'il est enfin, on a enfin retrouvé des morceaux au fin fond d'un petit ciné-club de Buenos Aires en 2008. Et enfin,
non,
voilà.
C'est vrai.
Mais oui, oui, vraiment, c'est une très très longue et très très belle histoire.
Et parce qu'il était parti où, les autres bouts de film
Ben vous savez.
Non, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce film?
Ben, ce film, il est arrivé, ce qui est arrivé à beaucoup de films allemands suite à la guerre. Donc le film, l'Allemagne ensuite a pu être pillée en fait par les gagnants de la guerre. En fait, il y a eu beaucoup de films, beaucoup de bandes qui se sont retrouvées, notamment en Russie. Après, il a fallu retrouver, qui étaient conservés qui n'étaient pas forcément très, très bien conservés, quoi, dirons-nous.
Et, pas conservés du tout.
Voilà, il y avait d'autres bandes qui avaient été vendues aux États-Unis. Simplement, la Paramount, en fait, avait censuré toute une partie du film, simplement pour que ça rentre un peu dans les cases de leur distribution. Donc, il fallait que ça dure 1h30. Le problème, c'est que l'original dure 2h30. Donc, il y avait des coupes assez sévères. Et donc, il a fallu attendre longtemps. Et c'est vrai qu'en 2008, ils se sont rendus compte vraiment par hasard dans un petit ciné-club de Buenos Aires en Argentine, donc qui avait une bande qui avait été vendue à sa sortie en 27 et ou 29, je ne sais plus exactement. Et voilà, ils ont pu retrouver ça, donc ils ont pu reconstituer enfin donc le film. Donc là, voilà, il y avait une actualité sur ce film qui est en plus magnifique, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre du cinéma. Enfin, c'est le prototype du film de science-fiction, une magnifique épopée, voilà, avec une mise en scène incroyable. Et bon, voilà, se confronter à ça. En même temps, j'ai choisi celui-là sur les deux. En même temps, c'est énorme.
Mais oui, alors justement, un petit mot quand même pour comprendre comment un musicien s'attelle à une telle tâche. Comment tu as travaillé ? Tu as visionné 15 fois le film avant de commencer à avoir une idée ? Ou est-ce que tu es venu au fur et à mesure ? Comment, puisque c'est, on rappelle, c'est quand même pour faire du direct, hein, c'est pas de la musique de film, tu enregistres et puis tu attends la suite.
Faut vraiment se lancer. Il faut pas se poser trop de questions, surtout sur un film de 2h30. Alors, se lancer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le visionner directement avec un papier, un stylo, annoter toutes les scènes, là où elles se terminent. La technique, c'est un peu ça, c'est d'essayer de démonter le film.
Chronométrer un petit peu, de minuter, quoi.
Exactement. Après,
séquencer.
Oui, c'est ça, c'est de redécouper le film, de faire un synopsis chronométré, exactement, et se retrouver ensuite avec une fiche où on sait qu'on a telle scène sur laquelle à côté j'ai noté comme ça quelques adjectifs pour savoir un peu quel type d'ambiance un peu je serais amené donc à exploiter. Puis ensuite, par rapport à ces quelques adjectifs et à ces minutages, voilà, commencer à improviser, chercher des rythmes, chercher des groupements harmoniques, voilà, des ambiances, des climats qui pourraient être... une certaine pertinence, et puis ensuite, bien sûr, la phase essai à l'image. Voilà, après, il y a tout un travail de raccord. Enfin bon, je passe tous les détails.
Mmh. Et comment on se positionne en tant que musicien par rapport à une image, par rapport à un film ? Est-ce qu'on est là pour l'accompagner ? Est-ce qu'on est là pour souligner des choses ? Est-ce qu'on est là pour illustrer ? Voilà, quelle position tu prends ? Est-ce qu'on est juste dans un rôle, on pourrait dire, de sideman qui pourrait accompagner une chanteuse, par exemple ? Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver des images. Ou est-ce qu'on crée aussi quelque chose ? Parce qu'il y a un rôle un peu ingrat, finalement, on est dans l'ombre
de l'image. Pas tout le monde, ça dépend. Parce que en fait, la réponse, elle est personnelle à chacun. Il y a pas mal de réponses. Et il y en a pour qui le film n'est qu'une partie intégrante d'un spectacle plus large, quoi. La réponse est un parti pris, en fait, et le mien est d'être au service du film. Moi, c'est la vision peut-être un peu à l'ancienne, mais c'est comme ça que c'est aussi mon plaisir de cinéphile, hein, qui ressort là. Moi, ce que j'essaie, c'est presque d'arriver un idéal, c'est d'arriver presque à se faire oublier, c'est-à-dire que la personne et le spectateur est vraiment là en train de voir un film. Il est porté par le film est porté, en tout cas accompagné, pas porté parce que les images suffisent d'elles-mêmes. Mais en tout cas, oui, voilà, je suis là pour illustrer vraiment la musique, pour souligner ou éventuellement pour apporter des contrepoints. Enfin voilà, donc il y a évidemment tout un positionnement. Donc ça, c'est par rapport à ça, il y a même plusieurs tentatives. Je fais plusieurs tentatives de plusieurs positionnements de quelle place peut avoir la musique par rapport à ça, entre le trop et le passé. Mais c'est difficile de répondre parce qu'il faudrait répondre en fait scène par scène. Le mieux, c'est de venir voir.
Ouais. On rappelle donc que ça se passe demain pour la première, puisqu'il y en aura plein d'autres. Tu vas faire le tour
bien
de
sûr,
la France
bien
avec
sûr,
le film.
Bien sûr, c'est pas encore prévu, mais ça va.
Ça va se faire.
Oui.
Et donc ça se passe demain à Segré au cinéma Le Minguet.
C'est
5,50€. On n'a pas précisé le prix tout à l'heure, donc c'est une paille. Hein. Voilà, donc on va continuer cette émission, cette sélection musicale que tu nous as amenée, Alexandre, avec justement un musicien aussi très cinématographique dans sa démarche, qui s'appelle Marc Ribot, musicien américain qui accompagne aussi à ses heures Tom Waits, pour ceux qui ne sont pas forcément férus de jazz, mais qui suivent plus l'actualité de Tom Waits. Et voilà, donc, et c'est tout approprié, puisque c'est un morceau qui est issu d'un album sorti en 2010 qui s'appelle Silent Movies. Voilà, on écoute tout de suite Marc Ribot. Thank you.
C'était donc Marc Ribot, Natalia in E flat major silent movies. Ça vous plaît pas, non?
Marc Ribot.
Bah, je pense, non? Bon, écoutez, alors, chers auditeurs, nous continuons le.
Nous, en France, on dit Marc Ribot.
Le transistorton. Appelé pour nous aider. Voilà, donc toutes ces magnifiques compositions qu'on a pu écouter, qui ont donc constitué une partie de ton univers musical, Alexandre. Malgré tout, c'est toi que nous écoutons et que nous interrogeons aujourd'hui à ce micro. Et comme souvent, bah, l'idéal ça aurait été de pouvoir t'écouter jouer pour que les auditeurs puissent un peu savoir qui tu es, ce qui se cache derrière tes doigts. Malheureusement, il n'y a pas de magnifique grand Steinway dans les locaux de l'autre radio. Alors, on va devoir se contenter, mais je pense que c'est déjà très bien, de disques. Et donc, tu nous as amené un premier titre. On revient un petit peu en arrière sur ton premier enregistrement du groupe Dérive.
Oui, oui, ça m'a fait drôle d'ailleurs de replonger là-dedans, parce que c'est un disque que j'ai amené simplement parce qu'il avait une place particulière forcément dans ma vie. C'était le premier que nous avons fait. Voilà, j'avais tout juste 20 ans et donc ça commence à dater là. Et donc voilà, donc c'est le groupe Dérive avec lequel je suis rentré dans le monde professionnel de la musique. Et donc voilà, c'était pour partager cet objet qui est pour moi important, mais voilà, musicalement il y a eu du chemin depuis, mais en tout cas c'est une trace, quoi.
C'est pas toujours voilà. C'est pas difficile parfois de se réécouter comme ça.
On écoute.
Juste. On fera un débriefing après. la danse de Géo, donc sur l'album Simple, il s'appelait comme ça.
Oui.
Voilà, Simple. Du groupe Dérive, je sais pas, c'était un quartet, un quintet, un quartet. Mmh. Voilà, donc premier enregistrement studio d'Alexandre Gosse, et donc premier orchestre aussi, premier groupe professionnel aussi, tu disais.
Ouais, ouais.
Et puis on va faire un bond dans le temps pour évoquer le second morceau qu'on va écouter ensuite, puisque là il s'agit d'un enregistrement du projet dont on nous parlait tout à l'heure, Far West Coast, mmh. qui est un projet qui t'a pas mal occupé l'année passée, ouais. l'année dernière, mmh. qui était un projet voilà, à ton initiative, l'envie de relire de ce répertoire du jazz des années 50, c'est ça, 50-60
Oui, alors c'est pas le répertoire, c'est justement par rapport à tout à l'heure, on parlait de reprendre les perspectives justement d'une esthétique et voir ce que moi je pouvais en faire aujourd'hui. Et en gros, les perspectives justement du West Coast, qui d'ailleurs étaient vraiment, c'était les musiciens blancs d'ailleurs, quand on parlait de l'histoire, ben justement c'était la réponse de ces musiciens. Mmh. Il y avait vraiment l'opposition, quand je dis blanc et noir, il y avait vraiment une opposition, en tout cas médiatique, à l'époque aux États-Unis.
D'accord. Entre qui était orchestré médiatiquement.
Exactement, entre le... voilà, entre le jazz dit cool, soft, blanc justement, qui jouait sur le raffinement, l'élégance, et évidemment de l'autre côté voilà, un jazz, alors là évidemment à l'époque on aurait pu dire un jazz de bon sauvage quoi, voilà. Mais voilà, évidemment on apprend avec 50 millions de guillemets, mais justement l'aspect médiatique était vraiment fait un peu de cette façon là et justement en fait les musiciens de la côte ouest, bah, justement eux, par rapport à cette histoire, comme je disais, ils ne sentaient pas forcément de jouer du blues, mais voilà, ils avaient toute leur culture européenne derrière, avec toute une histoire sur l'écriture, sur la musique savante, et donc eux, justement, tous les codes de l'improvisation, ils cherchaient justement à les mettre au service d'une musique écrite avec plus de... en tout cas plus écrite, donc à chercher un certain raffinement dans l'écriture. Et donc ça, c'était une des réponses, et au-delà de cette question d'écriture, ben voilà, c'était aussi un phrasé justement qui était plutôt dans l'élégance, dans la longueur, avec des personnes comme Chet Baker, comme Jerry Mulligan, ou Lee Konitz dont on parlait tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc ça, c'était des références donc, pour moi de ces sonorités-là, et de justement comment faire avec des musiciens aujourd'hui qui sont en plus passés... par toute la musique improvisée, toute la violence du free jazz, qui joue aujourd'hui dans des contextes beaucoup plus rock. Comment les remettre justement dans cette élégance-là? Qu'est-ce qu'ils en feraient aujourd'hui? Ça m'intéressait justement de prendre un peu ce pari-là, en fait. Et donc voilà. Et donc en même temps, il y a certains hommages en même temps, parce qu'on peut retrouver... à un moment donné une formation qui était celle de Jimmy Gio. Enfin, donc voilà, après c'est des clins d'œil de spécialistes, on va dire. Je ne vais pas forcément détailler là, mais qui étaient des références directes un peu West Coast. Et là, le morceau qu'on va entendre, en fait, je l'ai écrit à partir du chorus du morceau le plus connu de l'histoire du jazz, c'est-à-dire le morceau Take Five. Je dis le plus connu parce que c'était le morceau qui a été le plus vendu, tout simplement,
ouais, bien sûr. Et puis
dans l'histoire du jazz.
Dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui parle aux gens,
voilà,
même qui ne connaissent pas du tout le jazz.
Et donc là, en fait, donc c'est le thème principal, c'est exactement, voilà. Donc ce chorus-là que Rémi a en tête du matin au soir.
Quel talent, ce Rémi.
Et alors ce qui était rigolo aussi, c'est pourquoi ce morceau était connu, parce qu'il était en 5 temps, sur 2 accords, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque, justement sur la côte ouest dans les années 50. Ça préfigurait ce qui allait se passer dans les années 60 avec le jazz modal et tout. Et en fait, moi je l'ai décontextualisé, donc j'ai pris vraiment le chorus écrit en 7 temps, mais je l'ai mis dans un cadre en 4 temps, fait qui était un calcul mathématique invraisemblable, quand je me suis rendu compte qu'en fait ça rentrait dans un cadre de 32 mesures parfaites.
C'est comme horrible, c'est horrible la musique.
Quand on est musicien, il faut être un peu aussi matheux, quoi.
En tout cas, voilà, c'était un genre de plaisir mathématique, il y avait une espèce de perfection qui était tellement évidente que je ne pouvais pas ne pas y toucher.
C'est pour ça que les Grecs, d'ailleurs, je crois, le mettaient dans les disciplines nobles, enfin je ne sais plus comment ils appelaient ça. Les maths et puis
Oui, en tout cas, oui. Enfin, il y a souvent une histoire d'équilibre, en tout cas, qu'on retrouve dans les deux, tant dans l'esthétique que dans les mathématiques.
On fera un dossier là-dessus dans Transistor.
Voilà.
Musique actuelle et mathématiques.
Et donc là, il y a ce chorus qui a été donc totalement. Enfin non, il est identique. Hein, il est joué vraiment à l'identique. Simplement, il a été totalement réhabillé dans un cadre en 4 temps, 32 mesures. Et écriture contrapuntique comme il se doit. Voilà.
Bon, on vous laisse découvrir ça.
Thank you.
Nous écoutions donc le propos 5. 5, non ? Ah, propos 5. Comme Take 5, waouh. Far West Coast, donc Alexandre Goss qui était au piano dans cette formation. Un concert qui était enregistré aux Ondines a changé. Eh bien, l'année dernière, maintenant on peut le dire, 2011, car nous sommes en 2012. Et oui, oui. Alors, pour ceux qui souhaiteraient entendre Alexandre Goss en concert sur un registre totalement différent, nous rappelons donc que demain, vendredi 6, si je ne m'abuse, au cinéma Le Minguet, à Segré, à 20h pétante, car le film dure 2h30. Vous pourrez, je pense que c'est ça la raison, entre autres, voir Metropolis, voir et écouter Alexandre Goss sur Metropolis. Par ailleurs, dans ton calendrier, okay, tu rejoueras aussi, si j'ai bien compris, à Nantes prochainement.
Oui, alors ça c'est pour le mois de mars, oui, le 14 mars, donc la formation donc avec Geoffroy Tamizier et Jean Popov Chevalier. Une formation d'ailleurs qui répond au doux nom de Tribus Delectus. Ce sera en première partie de la dernière formation de Vincent Courtois.
D'accord, donc un beau programme hein, ce 14 mars à Nantes au Panonica. On espère te revoir sur d'autres scènes, hein, d'autres scènes prochainement, pourquoi
j'espère
pas en Mayenne ou ailleurs.
J'espère m'y revoir également. Ouais.
C'est vrai qu'on discutait de la difficulté des musiciens de jazz, mais des musiciens tout court sans doute, mais plus particulièrement des musiciens de jazz à trouver des dates, à tourner. Et c'est vrai que voilà, on souhaite de pouvoir aussi ben, valoriser tout cet investissement que ces projets, parce que voilà, comme Far West Coast ou Metropolis demandent beaucoup de temps, j'imagine, de travail. Donc voilà, j'espère que.
Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, je suis dans le plaisir et dans les charmes de l'art éphémère, mais voilà.
Eh bien, merci.
Dit-il avec un petit sourire.
Au revoir.
Merci en tout cas, Alexandre, d'avoir répondu à notre invitation. Ben, ça fut un plaisir de déjà d'écouter ta sélection et puis aussi tes réponses à nos questions. Hein. J'espère qu'on t'a pas trop
merci à vous, non,
déstabilisé.
Ça va.
Et puis, on va conclure cette émission comme d'habitude avec notre rubrique La vieillerie à Jackie, le pendant de la rubrique qui ouvre cette émission où on vous fait découvrir des nouveautés. Donc là, avec La vieillerie à Jackie, il s'agit plutôt de vous faire découvrir ou redécouvrir un vieux disque. Et pour faire raccord avec cette émission à la tonalité quand même plutôt jazz et pianistique, il nous semblait tout à fait indiqué de vous passer un morceau de Paul Fort. Alors, mais qui est Paul Fort pour ceux qui ne connaissent pas
le
personnage, c'est une figure, on peut le dire, du jazz en Mayenne, un pianiste d'ailleurs comme Alexandre. Et quelque part d'ailleurs un peu ton prédécesseur, puisque c'est l'un des créateurs des ateliers de jazz qui ont préfiguré après le département de jazz du Conservatoire de Laval.
Oui, tout à fait, oui.
Donc c'était tout indiqué voilà, de passer un morceau de ce musicien qui a sorti plusieurs disques sous son nom, en sachant qu'il a eu une carrière avant de musicien plutôt orienté rock avec un groupe qui s'appelait les Shooters. Et donc plusieurs disques sous son nom, plutôt inclassables entre jazz, musique du monde, musique classique. Mais ce qu'on vous propose d'écouter là pour terminer cette émission, c'est un enregistrement plus ancien et je pense introuvable, qui avait été publié en vinyle sur le label Pluriel, donc un label local, il me semble, qui était basé dans l'Orne. Donc un 33 tours intitulé « Pour se faire plaisir » où Paul Fort, accompagné justement de quelques-uns des musiciens qui jouaient dans les Shooters, se fait plaisir, ça porte le disque porte bien son nom, en jouant des standards du jazz des origines, donc plutôt, on est plutôt du côté du ragtime, du jazz New Orleans, avec ce disque qui va nous permettre de clôturer cette émission. On va écouter un morceau, le morceau d'ailleurs, qui ouvre ce disque et qui est un standard du jazz qui s'appelle Saint Louis Blues. On vous souhaite une belle et agréable soirée, une merveilleuse année 2012. Et on se retrouve dans Transistor l'émission le 2 janvier. Bonne soirée.
Février.